Je vous assure, nous avons passé des moments exceptionnels au premier culte et Dieu nous a abondamment arrosés par sa parole. Et je sais que vous, vous êtes du deuxième culte, c'est ceux du troisième culte qui pourront suivre les mêmes messages. Et nous vous exhortons, nous vous en conjurons que vous puissiez suivre ce message à la maison. Je vous assure, c'est un message extraordinaire. Et la technique peut nous balancer une petite séquence pour vous mettre au parfum de ce qu'a été ce message, mais l'intégralité, vous le suivrez à la maison. Est-ce que la technique est prête pour nous donner cette séquence de quelques minutes et après quoi nous reviendrons sur le message de l'Église.
C'est bien possible. Daniel dit quelque chose sur le témoin. Il dit, quiconque me verra me tuera. On ne tue pas n'importe qui parce qu'on est trouvé en cours de route. C'est-à-dire que quand on se tue, il est vulnérable. Donc, loin de Dieu, nous devenons vulnérables. C'est pourquoi il y a des gens qui meurent par des maladies compliquées. Tu penses en train de dire que tu meurs par maladie, que tu n'as pas besoin de Dieu. Je ne dis pas ça. Mais il y a des maladies, vous sentez que tu es envoûté par le diable. Ça emporte les gens. Vous savez, j'ai parlé avec un médecin qui m'a dit qu'au Congo, nous tous, nous avons la tuberculose. Nous avons le bacille de coq en nous. Donc, le dîner là, il n'est pas important. Il y a des besoins de salut. Nous tous ceux que nous sommes là, nous avons les machines de coq en nous. Mais ce qui nous garde, c'est qu'on n'a pas des infections qui veulent détruire le système immunitaire. Et puis on essaye de bien manger. Si tu veux, fais-moi une expérience. Fais seulement un mois, ne mange pas, tu verras. Toutes les maladies vont passer par toi. C'est pourquoi actuellement, quand quelqu'un développe la tuberculose, dans la plupart des cas, on doit le tester au VIH. Parce que le VIH vient détruire les anticorps, ainsi toutes les maladies sortent de ton corps. Ainsi, parmi les infections qu'on appelle opportunistes, se trouve la tuberculose. C'est-à-dire que chacun des livres, j'explique ça maintenant spirituellement, chacun des hommes tels que nous sommes là, par cause d'Adam et Ève, à cause du péché originel, nous avons quelque chose en nous qui n'aime pas Dieu. Dès que tu t'es loin de Dieu, c'est fini. C'est pourquoi tu vas croire, là il y a un prochain niveau. L'animal qui est là, il y a un peu. Oui, parce que Dieu, quand je déconnecte avec Dieu. Regardez, quand vous avez un réchaud à la maison ou un cuisinier. Une cuisinière, hein? Un cuisinier, bon, cuisinier. Quand vous avez cuisinière à la maison, et que vous avez fait un mois, vous n'avez pas branché, qu'est-ce qui va arriver? Ma poufou, ma péché, l'itsangangungu, l'itsangoma, tout ça va, ils entrent là-bas déjà. Loin de la place du courant. Mais il faut que tu branches. Faut t'importer. Tu n'as pas chassé. Dès que tu branches, reste seulement après seulement les gars. Tu vas sauter. C'est lui qui ne sautera pas vos dites. Viens à l'Éternel. Rentrons dans la présence de Dieu. Que l'Église rentre dans la présence de Dieu. Les bonheurs dont nous avons besoin, c'est tout dans la présence de Dieu. La gloire que nous recherchons, le mariage que tu cherches, la guérison que tu cherches, c'est tout dans la présence de Dieu. Caïn dit, tu me loin de ta face. Quiconque me verra me tuera.
Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Suivez ce message, vous serez fortement édifiés. Amen. Rentrons maintenant au deuxième culte. Est-ce que vous êtes là? Alors acclamons le Seigneur. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et le sous-thème de ce matin que nous voulons introduire, nous l'avons intitulé Ebenezer, le cri qui a tout changé. Le cri qui a tout changé. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 4, du 1er au 10e verset. Ensuite nous lirons 1 Samuel chapitre 7. Le premier et le deuxième verset. 1 Samuel chapitre 4, 1 à 10. 1 Samuel chapitre 7, 1 et 2. D'autres passages, nous pourrons les lire au fur et à mesure que nous allons évoluer. Voilà. Ebenezer, les cris qui a tout changé. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Ebenezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins. qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Eli, Ophni et Phiné étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent, que signifie ce grand cri qui retentit dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans les déserts. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et une tomba d'Israël, 30 000 hommes de pied. Chapitre 7, les premiers et les deuxièmes versets. Les gens de Kirjath Jearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath Jearim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Ô Seigneur, ils poussèrent des gémissements parce qu'ils n'en pouvaient plus. C'était tellement trop, c'était tellement désolant, ô Dieu, de voir les tableaux qu'ils présentaient. Et il fallait, ô Dieu, passer à un acte. Il fallait poser un geste, ô Dieu, qui devait tout changer. Et ce matin, tous nous soupirons après un changement, d'une manière ou d'une autre, ô Dieu. Et si ce changement pouvait passer par un cri, si ce changement pouvait passer, ô Dieu, par une expression d'un homme, d'une femme, ô Dieu, qui n'en peut plus, parce que trop, c'est trop. Alors, Seigneur, passe même par les cris pour amener la vie et le bonheur, ô Dieu, dans nos cœurs. Souviens-toi, Seigneur, de ton peuple. Et fais-nous du bien par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Si nous sommes d'accord avec la parole du Seigneur, nous l'acclamons. Nous poussons des cris de joie pour dire que nous sommes d'accord avec la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni. Le cri qui a tout changé. Ebenezer, le cri qui a tout changé. Un cri, s'il faut le définir, un cri, c'est une action de crier. Une action de crier. Le cri peut aussi se comprendre comme étant un son perçant, un son puissant émis par la voix d'un être humain ou d'un animal. Et déjà nous comprenons que le cri est différent d'un parler normal. Il arrive des moments où vous parlez et les gens ne posent aucun problème, ne vous font aucune remarque. Mais il y a d'autres fois où, quand vous parlez, on vous dit que vous criez. Comme l'un de ces mercredis, alors que nous rentrons à la maison, ma femme m'a dit, aujourd'hui tu as beaucoup crié. Ah, j'ai compris qu'il y avait une nuance. Ça veut dire qu'il y a des jours où je ne crie pas. Donc, le cri, c'est un son perçant et puissant, émis par, notez bien, la voix d'un homme, la voix d'un être humain ou d'un animal. Les cris, ce sont aussi des plaintes, des gémissements de personnes qui sont dans l'oppression, des plaintes et des gémissements de personnes qui sont dans l'affliction, des gémissements et des plaintes de personnes qui sont aussi dans un malheur. Et quand on se retrouve dans l'une de ces situations, il est tout à fait normal que l'on s'exprime par un cri. Un cri pour juste se faire comprendre ou se faire entendre par rapport à tout ce que l'on est en train de connaître comme moment difficile. Nous avons lu ensemble avec vous au chapitre 7 de 1 Samuel, au verset 2, si nous pouvons encore retrouver ces passages. Nous avons lu au chapitre 7, verset 2 de 1 Samuel, il est écrit ceci: il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath Jearim. La Bible dit 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Donc lorsque nous parlons de gémissements ici, c'est-à-dire c'est une action, c'est une oppression qui s'exprime par un cri. Vous vous souviendrez de gémissements dont la Bible parle concernant les enfants d'Israël en Égypte. La Bible dit, Dieu a vu la souffrance de son peuple, mais aussi il a entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et pour Israël ici au chapitre 7, le verset 2, lorsque la Bible parle, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel, l'on a affaire ici à un cri qui est la conséquence d'une affliction. Un cri qui est la conséquence d'une oppression, un cri qui est la conséquence d'un malheur. Alors, puisque nous parlons du cri qui a tout changé, la question que nous nous posons d'emblée, c'est celle de savoir comment comprendre ce chapitre d'Ébénézer. Parce que nous sommes à notre premier chapitre, nous avons fini la longue introduction que nous avions eue pendant 5 interventions, je pense. Et aujourd'hui, nous entamons le premier chapitre de cette série d'enseignements sur Ébénézer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alors, la question que nous nous posons est celle de savoir comment comprendre ce premier chapitre d'Ébénézer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, qui touche les cris qui a tout changé. Alors, notez sa compréhension, c'est-à-dire la compréhension de ce chapitre premier, les cris qui a tout changé. Sa compréhension sera possible à travers l'analyse des points suivants. Sa compréhension sera possible à travers l'analyse des points suivants. Premièrement, la nature du cri du peuple de Dieu. Deuxièmement, la puissance du cri dans la relation avec Dieu. Et troisièmement, l'impact du cri dans la destinée du peuple de Dieu. Comment comprendre ce premier chapitre de Ébénézer? Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus qui touche les cris qui a tout changé. Sa compréhension sera possible à travers l'analyse des points suivants. La nature du cri du peuple de Dieu, la puissance du cri dans la relation avec Dieu, l'impact du cri dans la destinée du peuple de Dieu. Ces trois points, nous les verrons plus tard. En guise d'introduction à ce premier chapitre, cherchons avant tout à cerner la notion du cri dans l'exercice de notre foi. Parce qu'il est important que nous puissions circonscrire cette notion dans l'exercice de notre foi. Nous avons été sauvés et nous marchons aujourd'hui avec le Seigneur et par la foi, nous le suivons. Et dans cette marche avec Dieu, dans cet exercice de notre foi, nous intervenons, nous agissons d'une manière ou d'une autre, et dans nos actions, dans nos réactions, nous faisons évidemment aussi usage du cri. Alléluia. Et nous voulons d'abord cerner, avant d'aller loin, cerner d'abord la notion du cri dans l'exercice de notre foi. Alors, cette notion, notez, cette notion s'illustre clairement et produit ses preuves à travers la démarche entreprise par la femme cananéenne auprès de Jésus, sollicitant son secours en faveur de sa fille qui était cruellement tourmentée par les démons. Je disais, cette notion s'illustre, c'est-à-dire la notion sur les cris Dans l'exercice de notre foi, cette notion s'illustre clairement et produit ses preuves à travers la démarche entreprise par la femme cananéenne auprès de Jésus, sollicitant son secours en faveur de sa fille qui était cruellement tourmentée par les démons. Et cette histoire, nous la trouvons dans Matthieu chapitre 15, du verset 21 au verset 28. Nous sommes dans Matthieu chapitre 15, du verset 21 au verset 28. La Bible dit, Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires des Tyre et des Sidon, suivant bien la lecture. Et voici, une femme cananéenne qui venait de se contrer, lui, est-ce que vous êtes là? Je réponds. Jésus est parti de là, ne dormez pas s'il vous plaît. Jésus est parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer, lui, cria. Elle dit quoi? Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmenté par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui disent avec insistance. Qu'est-ce que les disciples disent ici? Renvoie-la car elle crie derrière nous. Vous voyez ça? Renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit. Qui répond ici? C'est Jésus. Il dit quoi? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdu de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit. Qui répond ici? Jésus. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Lisons tous le verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est comment? Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, ta fille fut comment? Guérie. Alléluia. C'est formidable. Tu as raison d'acclamer. Ça, c'est formidable. C'est exceptionnel. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Par la réaction des disciples, parce que nous avons lu ce texte merveilleux. Et dans ce texte, nous voyons cette femme qui reçoit une présence inhabituelle. Elle est une païenne, elle est de Tyre et de Sidon. Et la Bible la présente comme étant une cananéenne. Et cette femme voit de façon inhabituelle le passage de Jésus dans son territoire. Et alors qu'elle avait sa fille tourmentée cruellement par un démon, elle vient vers Jésus. Mais quand elle vient vers Jésus, elle entame sa démarche par une expression. C'est-à-dire, elle crie. Elle crie et qu'est-ce qu'elle dit dans son cri? Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, car ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Alors qu'elle fait ce cri, elle est en train de suivre Jésus comme tous les autres. Les disciples qui sont là à côté vont voir Jésus pour lui dire, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Alors, lorsqu'on essaie de comprendre la réaction des disciples, nous nous posons certainement cette question. Je dis ceci, par la réaction des disciples de Jésus sur le comportement de cette femme, nous nous poserons la question sans doute de savoir quel était le vrai problème des disciples de Jésus pour les gens qui suivent Jésus. Alléluia. La question que nous pouvons nous poser au regard de l'attitude, de la réaction des disciples de Jésus, lorsque ils voient, ils entendent ou ils assistent à ce comportement de cette femme cananéenne, l'on se pose la question de savoir quel était le vrai problème des disciples de Jésus pour les gens qui suivent Jésus. Jésus est suivi par des milliers d'hommes et de femmes. Vous vous souviendrez de cette foule qui a été nourrie, à peu près 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Donc Jésus est habitué à traîner derrière lui des foules. Jésus est habitué à aller dans des endroits où il était même, à un certain moment, il était obligé de se cacher pour passer de façon inaperçue. Donc Jésus était habitué à drainer des foules derrière lui. Oui ou non? Il avait tout le temps des gens derrière lui. Mais lorsque nous voyons l'attitude de ses disciples, nous nous posons finalement la question de savoir quel était le vrai problème des disciples de Jésus. À cette question, nous répondons de la manière suivante. Le vrai problème des disciples de Jésus n'était pas dans le fait que les gens devaient suivre Jésus. Non. Parce qu'ils étaient habitués à voir ces hommes et les femmes courir après Jésus. Le vrai problème des disciples de Jésus n'était pas dans le fait de voir les gens suivre Jésus. Mais le vrai problème des disciples de Jésus était dans le fait que ceux qui suivent Jésus devaient le faire en silence et sans crier. Comprenez ça. Le vrai problème des disciples, ce n'était pas que les gens ne suivent pas Jésus. Oui, ils étaient d'accord que les gens suivent Jésus. Mais leur vrai problème était que si tu suis Jésus, alors fais-le en silence. Si tu suis Jésus, ne crie pas. Si tu suis Jésus, reste comme ça. Si tu suis Jésus, ne dérange pas les autres. Si tu suis Jésus, c'est ton affaire avec Jésus. Alors, sois calme. Si tu suis Jésus, pense un peu ton cou et baisse un peu ta tête. Fais-le dans le silence. Et si on se voit autour, dans un endroit où tous nous venons vers Jésus, et quand vous essayez de lever seulement la voix, vous dites, chut, sois calme, sois tranquille, tu déranges les autres. Leur vrai problème n'était pas de suivre Jésus. Venez, suivez Jésus comme bon vous semble, oui. Mais quand vous suivez Jésus, fermez vos bouches. Quand vous suivez Jésus, soyez tranquille. Quand vous suivez Jésus, faites-le dans le silence. La question que l'on posera à cette femme, pourquoi alors étais-tu en train de crier en suivant Jésus? Ne voyais-tu pas que tu étais en train de déranger toute la foule? Ne vois-tu pas que tu étais en train de déranger ces hommes et les femmes? Ils venaient de très loin, ils ont quitté Israël pour votre territoire. Ils ont fait un long voyage, ils étaient sans doute fatigués. Pourquoi les suivre en criant? Tu devais le faire en silence et dans le calme. Et cette femme pouvait répondre à ces hommes et les femmes que notre expression à chacun devant Jésus dépend de ce qui se passe dans la maison de chacun. Si j'écris, si mon expression est dans le sens de crier, ça c'est une chose que mon expression c'est un rapport avec ce que j'ai laissé comme situation à la maison. Je voudrais dire à un homme ce matin, nous n'avons pas laissé les mêmes situations à la maison. C'est pourquoi quand j'écris, ne dis pas que tu es en train de déranger. Nous n'avons pas les mêmes situations. Toi, tu n'as pas laissé un enfant cruellement tourmenté par un démon. Tu n'as pas laissé un enfant tourmenté par les démons, par la maladie. C'est-à-dire, mon expression, ne la critique pas, ne la condamne pas. Mon expression est liée à quelque chose qui ronge mon cœur. Mon expression est liée à quelque chose qui me tracasse depuis tant d'années. Et aujourd'hui, j'ai trouvé l'homme de ma situation, alors laisse-moi crier. Je ne crie pas pour te déranger. Je ne suis pas derrière Jésus pour un dérangement. Mais si je suis derrière Jésus, c'est parce que dans ma maison, il y a un problème. C'est parce que dans ma maison, il y a un « ça ne va pas ». Frères et sœurs, qu'on ne s'intimide pas dans la présence de Dieu, chacun est venu pour soi-même. Chacun est venu pour soi-même. Elle criait. C'était un dérangement pour les hommes. Oui, c'est vrai. Mais son cri était lié à quelque chose. Son cri était lié à une situation. Tu n'as jamais connu une fille tourmentée par les démons. Quand je fais des nuits blanches pour veiller, je ne sais pas la crise va intervenir à quel moment. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain matin. Je gère cette situation, ça fait des années. Je gère ces problèmes, ça fait combien d'années? Je suis dans la souffrance, ça fait combien de temps? Je suis dans cette épreuve, ça fait combien d'années? Et quand j'ai trouvé l'homme dans ma situation, c'est toi qui viens me dire tu nous déranges. Arrête de crier.
Je crierai parce que je n'en peux plus. Je crierai parce que je n'en peux plus.
Tu ne cries pas pour déranger celui qui est à côté de toi. Tu ne cries pas pour déranger celui qui est devant toi. Tu ne cries pas pour plaire aux hommes. Mais ton cri est lié à une douleur. Ton cri est lié à une souffrance. Vous ne savez pas, frères et sœurs, des hommes et des femmes qui franchissent leurs pieds de ces deux portes-là. Peut-être qu'ils n'ont que ces quelques deux heures du temps pour retrouver la joie. Aussitôt rentrés à la maison, ils reprennent leur vie normale. Une vie basée sur la souffrance et les atrocités, comme vous n'en avez pas l'idée. Et quand vous l'entendez crier, respectez son cri. Respectez son cri, tu ne sais pas ce qu'il a laissé comme problème. Chez toi, tout va bien. Tu as déjà préparé la rentrée scolaire, mais lui, il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Et même les dossiers sont bloqués à l'école parce qu'on n'a pas encore payé. On ne s'est même pas donné aussi les résultats. Nous n'avons pas le même problème à la maison. Alors que mon cri ne t'affecte pas de façon négative. Nous n'avons pas le même problème. Nous n'avons pas le même problème. Je n'ai pas encore payé le loyer. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. C'est déjà 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est que je n'ai rien. J'ai déjà reçu la lettre même du bailleur, mais menaçant d'un préavis. Ça fait combien d'années? Je ne travaille plus. Et pourtant, tout allait très bien. Et tout d'un coup, tout s'est arrêté. Et aujourd'hui, même la petite dignité que j'avais, je ne l'ai plus. Je n'ai pas la même souffrance que toi. Je n'ai pas les mêmes problèmes que toi. Mon cri, c'est en rapport, en fonction de ce que je suis en train de vivre. À la maison, j'ai laissé quelque chose. Cette femme vient et elle crie pour les disciples et tout ça. Pierre, j'aimerais te dire, toi, tu avais une belle-mère qui était malade. Jésus était passé chez toi et il avait guéri. Et si maintenant tu peux faire un voyage paisible, sache que ce n'est pas tout le monde qui est dans ta condition. Tout le monde n'est pas dans ta condition. Moi, j'ai laissé un enfant cruellement tourmenté par les démons. Vous ne savez pas ce que ça fait que de voir, que d'avoir une situation de maladie à la maison. Vous ne savez pas ce que ça fait que d'avoir une situation qui vous trouble, qui vous perturbe. Vous ne savez pas tous. Tout ne vous sera pas dit. Tout ne vous sera pas dit. Tout ne vous sera pas dit. Il y en a qui préfèrent garder silence et parler seulement à Jésus. Parce qu'ils savent que vous, là, on ne vous fait pas confiance. Quand on vous partage une petite information, tout devient hérésie. Aussitôt que vous l'avez, au lieu de compatir, vous amplifiez. Et puis vous cherchez des démons partout. Nous n'avons pas la même situation. Je voudrais encourager un homme, une femme ce matin. Tu n'es pas venu ici dans le Yenge, mais tu es venu parce qu'il y a quelque chose que tu as laissé à la maison. Il y a quelque chose qui ne va pas que tu as laissé à la maison, qui fait des années et des années. Je t'encourage ce matin à crier. L'homme de la situation est arrivé à dire. L'homme de la situation est arrivé à Sidon. C'est la première fois. J'ai entendu parler de lui, mais je l'ai vu aujourd'hui de mes propres yeux. Ce n'est pas une occasion à rater. Puisque je l'ai vu, je vais faire quoi? Je vais crier. Je t'encourage à crier. Je t'encourage à dire à Jésus, « Aie pitié de moi !» Aie pitié de moi et secours-moi. Ça ne sera pas une honte. Ça ne sera pas une sorte de diminution, de valeur et tout ça. Non. L'on ne peut pas se rabaisser quand on crie vers Dieu. Quand ça ne va pas, il faut crier. Quand tout va mal, il faut crier. Quand ça ne tient plus, il faut crier. Quand tu vois que ça ne marche plus, crie. Dis à Dieu que là où je suis arrivé, je n'en peux plus. Il n'y a que toi qui puisses faire quelque chose. Ne m'interdis pas quand tu me vois en train de crier, parce que nous n'avons pas les mêmes problèmes. Si vous n'avez aucun problème, ou que Jésus a résolu tous vos problèmes, sachez que vous n'êtes pas les seuls à suivre Jésus. Tel que nous sommes là, vous n'êtes pas les seuls à suivre Jésus. Dans le cortège de Jésus, il y en a qui le suivront en silence parce qu'on vient de régler leurs problèmes. Il y en a d'autres qui le suivront parce qu'on vient de régler leurs problèmes et ils poussent des cris de joie. Mais il y en a d'autres dont la question n'a pas encore été réglée, alors laissez-les crier. Dans l'église, nous suivons Jésus. Mais chacun suit Jésus par rapport à la situation qu'il a laissée à la maison. Qu'as-tu laissé à la maison? Et quelle est l'expression que tu utilises devant Jésus? Ce que tu as laissé à la maison, c'est ce qui va influencer ton expression devant Jésus. Pourquoi vas-tu m'interdire de crier alors que nous n'avons pas laissé les mêmes réalités dans nos maisons? Notez, cette femme ne fut pas la seule personne à suivre Jésus, mais elle fut la seule à se faire remarquer par son cri. Et par conséquent, elle fut aussi la seule à avoir obtenu de Jésus la délivrance de sa fille. C'est pourquoi je voudrais te dire ce matin, ne suive pas le comportement de tout le monde. À l'église, ne suive pas le comportement de tout le monde. J'ai vu dans cette église là-bas, on prie calmement, doucement. Non, toi, ton problème doit te pousser à crier. Ne dis pas, Dieu entend même dans les calmes et tout ça. Oui, je suis d'accord. Dieu entend même dans les calmes. Mais il arrive des situations où tu ne peux plus rester tranquille. Il faut s'exprimer. Il faut le faire par un cri. Et quand tu me vois crier même avec larmes, ne me juge pas. Et ne me traite pas de pleurnichard. Non. Non. Tu ne sais pas ce que j'ai laissé comme problème à la maison. Tu ne sais pas ce que j'ai comme difficulté au travail. Tu ne sais pas ce que j'ai comme combat au travail. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ma famille. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer dans la vie de mes enfants. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer dans mon couple. Je crierai. Je ne crierai pas pour plaire à un homme. Je ne crierai pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Alléluia. Elle fut la seule à avoir obtenu de Jésus la délivrance de sa fille. Mardochée peut répondre aux autres peuple qui se trouva dans les 127 provinces de l'Empire Médo-Perse. Et là, nous sommes dans Esther chapitre 4, à partir du premier verset. Quand vous lisez ce passage, la Bible dit, lorsque Aman a finalement obtenu l'édit du roi, que l'édit disait que tous les Juifs devaient être mis à mort. Et lorsque Mardochée entend, il apprend que l'édit a déjà été signé, et même déjà, distribué dans toutes les provinces, qu'est-ce que la Bible dit? Mardochée alla au milieu de la ville, poussant des cris amers. Pourquoi? Parce que ce qui avait été dit ne concernait pas tout le monde, mais ça concernait son peuple à lui. Si ce qui a été signé comme arrêt de mort ne te concerne pas, alors ne me méprise pas quand tu me vois au milieu de la ville en train de crier. Mon cri est lié à ce qui a été décidé contre moi. Mon cri a été lié par rapport à une décision qui a été prise par le monde des ténèbres contre moi. J'ai dit à Dieu, souviens-toi de moi, aie pitié de moi, parce que trop, c'est trop. On pouvait le traiter de fou. Cet homme-là, ce gardien-là, à la porte du roi, on le voit en train de crier dans toute la ville. Il dérange, il fait des bruits et tout ça. Mon cri est lié à un édit. Mon cri est lié à quelque chose qui a été décidé contre moi. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Dans mon cri, je suis seul à y aller et des fois je ne suis pas aussi compris. Mais lorsque finalement Dieu entend, parce que Dieu entend les cris, Dieu entend quand le peuple crie, parce que la Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est pour dire que ce matin, Dieu est capable d'entendre les cris d'où qu'ils viennent. Il est capable d'entendre les cris de n'importe qui. Ne te dis pas que nous, là, même si nous crions, il y a un fossé entre nous et le ciel. J'aimerais te dire, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est tout près de toi. Quand il crie, il entend et il répond. Et lorsque Dieu répond, c'est extraordinaire. Lorsque Dieu répond, c'est avec de récupération. Lorsque Dieu répond, il ne répond pas à la manière des hommes. Mardochée a crié, c'était au milieu de la ville. Quand il crie, c'est devant tout le monde. Quand il crie, tout le monde est content. Au quartier, on t'a donné le nom. Celui-là, il pleure. C'est là, elle pleure toutes les nuits, tous les matins, on entend que sa voix, mais il y arrivera un jour, il y viendra le cri qui va amener le changement. Il y aura le cri qui va tout changer, parce que je ne crierai pas toujours toute ma vie. Aujourd'hui, si tu m'entends crier des douleurs, demain je crierai des joies, parce que ça ne sera pas toujours une seule expression. Ça ne sera pas toujours une seule expression. Il a crié au milieu de la ville. Les gens l'ont entendu. Ses collègues de service l'ont entendu. Les amis du quartier ont entendu que là, c'est Mardoché. C'est lui qui est en train de crier. C'est Juif qui est toujours à la porte du roi. Il est en train de crier. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez Mardoché? Pourquoi crie-t-il? Ce n'est pas un problème. Chacun peut interpréter son cri à sa manière. Il y en a qui peuvent te soutenir. Il y en a d'autres qui peuvent spéculer sur ton cri. Il y en a d'autres qui peuvent le prendre comme le sujet du jour. On peut critiquer à gauche et à droite parce qu'on a entendu ton cri. Quand tu pries, tout le monde entend et l'on sait même imiter ton cri. L'on sait même se moquer par rapport à ce cri-là. Mais ce n'est pas un problème. Il arrive. Il y aura un temps où le roi dira, maintenant écrivez les dix comme bon vous plaira. Le même qui a crié au milieu de la ville, au chapitre 4, le verset 1er. Regardez-le au chapitre 8, le verset 8. La Bible dit, et le roi dit à Mardoché et à Esther, écrivez maintenant les dix pour annuler, abroger. Les premiers que j'avais déjà signés. Mais cette fois-ci, quand vous les crierez, vous les crierez selon bon vouloir de vous-même. C'est-à-dire selon ce qui vous plaira. Je dis ce matin à quelqu'un que Dieu te donne de vivre le changement de ton cri. Il était au milieu de la ville en train de crier d'amertume. Il était en train de crier d'affliction. Il était en train de crier de situations désolantes. Mais Dieu a permis à ce que le changement se passe et que ça ne soit plus le cri de désolation, mais le cri qui loue Dieu, le cri qui élève Dieu, le cri qui exalte la puissance de Dieu. Nous étions des morts, mais par sa puissance, il nous a ramenés à la vie. Il nous a ramenés à la vie. Il nous a ramenés à la vie. Son cri est devenu un sujet de moquerie, un sujet de mépris pour les hommes. Mais malheureusement, ce n'est pas aux hommes que se dirige mon cri. Nous suivons tous Jésus. Chacun le suit selon ce qu'il a laissé comme problème à la maison. Ton problème n'est pas mon problème. Ta situation n'est pas ma situation. Et par conséquent, nos cris ne peuvent pas se ressembler. Respecte mon cri et je respecterai aussi ton silence. Mais quand je suis Jésus, dis-toi que tu n'es pas le seul à le suivre. Je le suivrai en fonction de ce qui est comme problème. Donc, par cette forme, nous comprenons que notre expression à chacun devant Jésus dépend de ce qui se passe dans la maison de chacun. Deuxième aspect, par cette forme, parce que nous avons vu cette femme crie. Elle crie, comme nous l'avons dit, en fonction de ce qu'il a laissé comme situation à la maison. Et elle tenait absolument à ce que Jésus fasse quelque chose. Mais alors que finalement Jésus va prêter attention à cette femme, la Bible dit, les disciples vont réagir pour dire à Jésus, chasse-la, renvoie-la, afin qu'elle arrête de crier derrière nous. Et Jésus va répondre. C'est là que Jésus commence à dire quelque chose de très très exceptionnel, suivez très bien. Jésus dit, je ne suis pas venu, d'abord, je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Alors qu'il se trouve là, dans le territoire de Sidon et de Tyr, c'est-à-dire des nations païennes par rapport à Israël. Et cette femme utilise elle-même comme étant une cananéenne. Et Jésus dit, je suis venu uniquement pour les brebis perdues d'Israël. En d'autres termes, Jésus veut dire à cette femme, je n'ai rien à faire pour toi. Parce que tu ne te retrouves pas dans la fourchette de ma mission, dans les limites, dans les frontières de ma mission. Je suis venu uniquement pour les brebis perdu d'Israël. Et puis, finalement, les échanges vont continuer parce que cette femme, finalement, va continuer à supplier Jésus pour dire, secours-moi, Seigneur, secours-moi. C'est vrai, je ne suis pas dans les frontières de ta mission, dans les limites de ta mission, mais secours-moi, secours-moi. Ce que j'ai vu là, ce que j'endure là, il n'y a que toi qui puisses trouver la solution. Elle dit, Jésus, secours-moi, Seigneur, secours-moi. Et Jésus continue pour dire, il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens. Deuxième barrière. C'est-à-dire, si c'était nous là, on allait dire à Jésus, même là, des enfants, on tigre en amour. Parce que si c'est avec des termes aussi forts comme ça, ça devient très compliqué. Jésus dit, donc, cette femme pouvait me dire à Jésus, donc moi là, pas que je suis devenu chien. Il n'est pas bien de donner le pain des enfants. Vous êtes là? Il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens. Mais cette femme va encore dire quelque chose d'autre. Elle n'a pas abandonné. Elle continue à persévérer. Elle dit à Jésus quelque chose qu'il n'avait pas entendu autour de lui. Elle dit à Jésus, « Oh Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Quand elle dit ça, elle déclenche quelque chose dans le cœur de Jésus. Et Jésus va dire, « Oh, comme ta foi est grande, je ne l'ai jamais vu en Israël. Alors, qu'il te soit fait comme tu veux. » Alors, par cette femme, notez, par cette femme, nous comprenons que par l'écrit, la porte de la grâce peut être ouverte à un païen, à une païenne, à un peuple immoral que Dieu avait voué à la destruction totale, à un peuple qui ne jouissait pas des privilèges accordés par Dieu au peuple élu et à un peuple étranger et sans espérance. Parce que Jésus est en train d'aborder la question par rapport au privilège des enfants d'Abraham. Jésus dit, ce que je tiens là, c'est pour les enfants d'Abraham. Toi, tu n'es pas fille hein, d'Abraham. C'est-à-dire, eux, c'est comme la femme courbée que Jésus avait guérie dans le temple. Cette femme n'avait pas demandé pour qu'elle soit guérie. Elle venait seulement et puis Jésus la prend. Et puis Jésus la guérit. Et quand le chef de synagogue réplique, Jésus va dire quoi? Cette fille d'Abraham que Satan a retenue captive pendant 18 ans. Ne fallait-il pas qu'elle aussi soit guérie? Vous comprenez? Ne fallait-il pas? C'est-à-dire pour eux, c'est un droit. Mais pas pour cette femme. C'est pourquoi Jésus a mis des barrières pour dire, toi là, tu t'y exclus. Et souvenons-nous, Canaan, c'est la nation que Dieu avait déjà vouée à la destruction totale. Rappelez-vous quand Israël était sorti de l'Égypte. C'est-à-dire, cette femme s'était échappée, ses descendants s'étaient échappés sur le lot des hommes et des femmes cananéennes que les enfants d'Israël avaient laissés par désobéissance. Et elle est sortie de là. Et plus tard, elle est maintenant ici, descendante de cette génération-là, de ces hommes et les femmes-là. Elle n'a ni droit, elle n'a rien en Israël. Mais elle nous enseigne aujourd'hui que mon cri que j'avais lancé ce jour-là m'avait ouvert la porte de la grâce de Dieu. J'ai pu posséder ce qui m'était interdit parce que je suis païen et païenne, parce que je suis étrangère et sans espérance. Mais par moi, j'ai pu vivre la grâce de Dieu. J'ai pu dire à un homme ce matin, l'écrit va t'ouvrir la porte de la grâce des choses que tu n'avais pas, mais que tu auras parce que l'Esprit aura ouvert le chemin de la grâce de Dieu. Elle était païenne, elle était de Tyr, elle était de Sidon, mais par elle, Jésus a introduit la grâce par un cri. Ton cri aujourd'hui peut te donner certaines choses par pure grâce. Si tu cries ce matin, la grâce de Dieu peut enfanter des choses. Si tu cries ce matin, la grâce de Dieu peut te sortir du lot de tout le monde. Si tu cries ce matin, la grâce de Dieu peut te sortir de cette famille maudite. Il y a la malédiction, mais c'est par les cris que le changement va venir. Il y a un cri qui est capable de sortir une femme des oubliettes. Il y a un cri qui est capable de sortir un homme du rejet. Il y a un cri qui peut changer l'avenir d'un serviteur. Il y a un cri qui peut amener un homme à accéder dans la grâce. La Bible déclare, approchons-nous du trône de la grâce. Et ça s'arrête là. Non. Afin que nous soyons comment? Secourus dans tous nos besoins. Il y a un besoin que tu as dans le cœur ce matin. Approche-toi du trône de la grâce. Cette femme nous dit, si je n'ai pas obtenu par les privilèges des descendants d'Abraham, mais au moins j'ai obtenu le pain des enfants par pure grâce. Tu obtiendras le pain des enfants par pure grâce. Tu obtiendras la maternité par pure grâce. Tu obtiendras le travail par pure grâce. Tu obtiendras l'élévation par pure grâce. Ça ne sera pas par un droit, ça ne sera pas, je ne sais pas moi par quoi, mais pour toi c'est une grâce qui va t'introduire dans quelque chose de puissant et de fort. Souvenons-nous de ce qui s'était passé dans Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Jésus est crucifié et tout le monde était là en train de voir et de se moquer de Jésus. On est en train de l'insulter, on est en train de dire des choses sur Jésus. Toi qui as guéri les autres, guéris-toi toi-même. Toi qui as délivré les autres, délivre-toi toi-même. Il était là comme abandonné de Dieu, il était là comme quelqu'un sans force, mais il était en train de vouloir enfanter la grâce pour libérer un homme qui était quelque part. Écoutez ce que la Bible dit. À partir du verset 46. Et ça, c'est formidable. Alléluia. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est peut-être ton cri ce matin, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ont entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et les affixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de ceux qui étaient morts ressuscitèrent. Je voudrais dire à un homme, la grâce est introduite par un cri, alors qu'il rendait l'âme sur la terre avait bougé, la terre s'était fendue, et les sépulcres étaient ouverts, et les morts pouvaient sortir. Si tu es mort ce matin, la grâce te donne la possibilité de sortir. Si tu es, je ne sais pas moi où, la grâce te donne la possibilité d'être repêché. Jésus est venu par son cri à la croix de Golgotha, alors qu'il mourait, mais il donnait la vie sur la terre. Il donnait la vie à une jeune femme. Il donnait la vie à un jeune homme. Il donnait la vie à un homme. Il donnait la vie à une femme. Quand la grâce vient, la terre ne reste plus ferme. La terre peut se branler. Je ne sais pas quelle est ta terre. Quel est l'état de ta terre aujourd'hui? La terre est appelée à se fendre. La terre est appelée à bouger. Parce que la grâce est enfantée par le cri. C'est par le cri que tu enfanteras. C'est par le cri que tu seras un autre homme, une nouvelle femme. C'est par le cri que l'on connaîtra que l'on a fait à un véritable enfant de Dieu. C'est par ton cri. C'est par ton cri que les choses changeraient. Alors qu'il était devant la tombe de Lazare, l'on pouvait dire qu'il avait déjà fait 4 jours. Il va dire à Marie, amenez-moi là où vous l'avez enterré. Quand il arrive devant la tombe de Lazare, il regarde la tombe, il ne balbutie pas ses lèvres, mais il parle en criant, Lazare sort! Lazare sort! C'est par un cri que Lazare était sorti. C'est par un cri que tu sortiras aussi de cette situation. C'est par un cri que tu sortiras de cette épreuve. C'est par un cri que tu sortiras de cette maladie. Ne te dis pas que je n'en peux plus. C'est vrai, tu n'en peux plus. Mais il y a quelqu'un qui a le pouvoir de te sortir de là. ce matin, où va ton cri? Tu es en train de crier vers les hommes. C'est pourquoi ils se sont moqués de toi jusqu'à présent. C'est pourquoi j'aimerais t'informer. Il y a un seul qui, par son cri, a pris en charge tous nos petits cris. Nous crions aujourd'hui parce qu'il y a un cri qui a déclenché un mouvement. Le mouvement de la restauration. Le mouvement où les morts devaient sortir de leur sépulcre. Qui t'a enterré? Où on t'a mis? Qui t'a enterré? Qui t'a englouti? C'est pas moi. Qui t'a bloqué? Le salaire, le prime, tout ça, ça a été bloqué pendant combien d'années? Il y a un cri qui est capable de déclencher les choses. Il y a un cri qui est capable de tout changer dans ta vie ce matin. Il était déjà là quatre jours. Quatre jours d'Iran. Et par la méchanceté des hommes, bon, comprenez, là, je ne parle pas de la méchanceté. Quelqu'un peut être là malade. On est tout près de lui. Et on prie, et on le console, on le conseille. Mais dès qu'il meurt, la première des choses, on le laisse là, nous on rentre à la maison. Et puis ce sont des croix rouges qui viennent pour l'amener où? À la morgue. Et le jour du deuil, ce n'est pas nous tous qui entrons, on envoie un responsable de la famille avec le numéro. Et quand on sort le corps, et puis ceux qui sont à la morgue, pour vous confirmer que réellement, on ne veut plus de cette personne, bah, qu'est-ce qu'il fait vous? C'est-à-dire qu'il n'est pas le plus bloqué. Et là, comme si ça allait suffisait parce que c'est la caisse. Toi, c'est le caisse bloqué. Et puis on part où? L'intérêt. Bon, c'est à ce moment-là, femme, non, on s'est dit que c'est un béton. C'est-à-dire du sous-sous. Mais quand l'homme de la situation arrive, peu importe ce que vous avez fait, peu importe là où vous l'avez mis le super glue, vous l'avez enterré dans un cercueil et puis mis le béton. Mais quand il vient et puis Lazare doit sortir. Tu dois sortir de cette situation. Tu dois sortir de ce qui t'a bloqué jusqu'à présent. Ne dis pas que c'est fini. Il y a quelqu'un qui t'aime. Jésus t'aime. La grâce de Dieu est venue pour toi ce matin. Je t'informe, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, la grâce est venue pour des gens comme toi. Elle était de Tyr, elle était de Sidon. Mais Jésus a montré ce jour-là à tout le monde que c'est vrai que j'étais venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais ma mission avait la possibilité de s'étendre aussi jusqu'au-delà des frontières d'Israël. La preuve en est que cette femme a été récupérée. Tu peux aussi être récupérée en abandonnant les péchés et en donnant ta vie à Jésus. Accepte Jésus qui me suit à la télévision. La grâce est aussi pour toi. La grâce est pour des hommes comme toi. Ta descendance a commis des choses. Il y a eu la malédiction pétée de la famille comme cette cananéenne. Une famille voit la destruction totale. Et c'est Dieu qui l'avait décidé ainsi. Mais c'est Dieu lui-même est revenu encore plusieurs années plus tard pour dire, c'est moi qui avais décidé que cette race devait être détruite totalement. Mais c'est moi aussi qui tends la main. Jésus te tend la main ce matin. Pourquoi restes-tu esclave de ce péché, de cette vie désolante? Cette vie qui n'honore pas Jésus, qui ne t'honore pas toi-même aussi. Ce matin, il y a possibilité que toi aussi tu acceptes au salut que Jésus est venu nous offrir. Courbons nos têtes dans la prière. Alléluia. 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 Oh Jésus, Jésus, je voudrais demander ce matin, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus alors que nous avons nos yeux fermés. Je voudrais t'aider à faire ces pas merveilleux, ces pas exceptionnels. Lève ta main, ou au besoin, lève-toi. Ne regarde pas qui est à gauche, qui est à droite. C'est toi qui connais les problèmes que tu as laissés chez toi à la maison. Ton problème n'est pas le problème de ton voisin. Lève ta main. Lève ta main, j'aimerais prier ensemble avec toi. Reçois aujourd'hui Jésus dans ton cœur. Reçois-le dans ta vie. Que Jésus entre. Il a fait ce voyage pour toi. Il a traversé les frontières d'Israël pour arriver à Sidon et à Tyr, parce qu'il l'avait. Il savait qu'il y avait une femme qui avait été vouée à la destruction depuis ses ancêtres. Mais lui, il est venu pour récupérer la situation. Lève ta main, peut-être tu me suis à la télévision et tu n'es pas là. Merci pour vous qui vous levez déjà. Gloire au Seigneur. Donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Reçois-le dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il a une histoire à écrire avec toi. Il a un chemin, il a un plan, il a un projet à faire avec toi. Alors ne reste pas esclave de ton péché. Renonce au mal que tu as fait. Renonce et demande pardon à Jésus. Pendant que je parle, demande pardon à Jésus. Dis à Jésus, Seigneur, je te demande pardon. J'ai commis des erreurs. J'ai commis le péché, j'ai fait des choses que je regrette moi-même aujourd'hui, mais j'ai entendu ta voix aujourd'hui, et je me réponds devant toi, Seigneur, accepte-moi comme ton enfant, accepte-moi dans ta maison, dans ton royaume. C'est vrai, je ne suis pas enfant d'Abraham, mais les miettes qui tombent de la table des maîtres peuvent aussi me servir pour me nourrir. La grâce est venue jusqu'à toi. Accepte Jésus ce matin. Accepte Jésus ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Jésus, merci. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble? Alléluia. Il y a un problème que tu as laissé à la maison. Il y a quelque chose qui te trouble. Il y a quelque chose qui te tracasse. Et j'aimerais que tu parles à Jésus pour dire à Jésus la grâce. La grâce est capable de sortir un homme du trou. La grâce est capable de sortir une femme du trou. La grâce est capable de changer la vie d'un homme. Les chemins doivent s'ouvrir. Les sépulcres doivent s'ouvrir. La terre doit se voiler. Les montagnes doivent se fendre. Alléluia, alléluia, alléluia. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Seigneur, secours-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, secours-moi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Oui, Jésus, c'est toi qui as tout ce qu'il faut. Tu es capable de faire ce voyage pour changer le cœur d'un homme. Pour changer le cœur d'un homme. Oh, Jésus, oh, Jésus, Jésus. Je n'avais pas trop le cavalier. Alléluia. Un cri a été lancé pour enfanter la grâce. La grâce est venue par un cri. Un cri qui a ouvert le porte du tombeau. Un cri qui a sorti la barre de la tombe. Un cri qui a fait fendre la terre. Un cri qui a volé le montagne. Quelle est la montagne qui est devant toi? Qu'est-ce qui est resté ferme devant toi? Il y a un cri. Un cri, Seigneur, monte vers toi. Et que tes cris déclenchent le miracle au nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous avons nommé le verbe. Pas assez de temps pour continuer la prière. Vous pouvez continuer la prière à la maison. Il faut qu'il y ait un cri qui puisse tout changer. Seigneur, souviens-toi de ton peuple. C'est par un cri que la grâce a été introduite dans ce monde. Et c'est par un cri, oh Dieu, qu'un homme, une femme ce matin trouvera le chemin de la grâce de Dieu pour des choses qui l'ont fait pleurer jusqu'à présent. Elle était païenne, elle était cananéenne, mais elle savait que la mission de Jésus pouvait s'étendre. La mission de Jésus n'était pas seulement de laisser les choses avec Israël, mais elle pouvait aussi aller au-delà des frontières. Seigneur, au-delà des frontières, il y a la RDC. Au-delà des frontières, il y a ces hommes et les femmes. Au-delà des frontières, il y a l'Église. Seigneur, alors manifeste ta puissance. Nous prions pour notre berger. J'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions prier. Pour notre pasteur, notre berger, notre frère, le frère Maurice Mouéou. Les cris ont été entendus, ont été lancés. Et il n'est pas son premier cri. Mais ces cris semblent rester les mêmes. nous allons dire à Dieu que maintenant, cette fois-ci, qu'il y ait un cri qui va tout changer. Est-ce que tu peux lever ta voix et parler au Seigneur? Qu'il y ait un cri qui va tout changer. Qu'il y ait un cri qui va tout changer. Amener la délivrance, ouvrir le sépulcre et amener le bonheur et la paix à tous égards. Au nom de Jésus, tu es toi de ton serviteur, libère et délivre-les, parce que tu en es capable. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places, Seigneur. Merci pour ces dîmes et nos offrandes.